Bonjour à tous, ces dernières semaines ont été riches en réflexions pour ma part. Je me suis rendu compte qu'on vivait dans un monde terriblement injuste, alors que le directeur d'Interpol est capturé par les Chinois et forcé à démissionner, alors que le journaliste Jamal Khashoggi a été tué en Arabie Saoudite. Certains échappent encore à la justice et jouissent d'une liberté qu'ils ne méritent pas. Évidemment, je fais bien sûr allusion au scénariste des films dont nous allons parler ce soir. Vous l'aurez compris, vous êtes bien dans votre podcast des critiques du cinéma vu par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 14. Aujourd'hui, un programme sous le signe de la transformation, puisque nous parlerons de Venom, un brave journaliste qui devient une saloperie gluante, de Star is Born, où Lady Gaga devient une vedette pour notre plus grand malheur, et de Girls, où un jeune belge a compris que le pouvoir aujourd'hui appartient aux femmes. En parlant de ça, pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe de double chromosome X, puisque entièrement composée de femmes fortes et indépendantes, à savoir Claire, Marie, Marine et Fiona. On vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant qui aura le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie, voilà, et se verra retirer la parole automatiquement pour le courrier des lecteurs. Eh ben rien non plus cette semaine, je vais finir par croire qu'on ne dit aucune connerie dans ce podcast. Mais n'oubliez pas que s'il vous vient l'idée de nous critiquer sévèrement, vous pouvez le faire sur notre page Facebook de C'est quoi le pitch. On commence avec A Star is Born, écrit par Eric Roth et Bradley Cooper. Alors la semaine dernière, on avait le festival Jamie Cummings qui tournait, qui jouait et qui réalisait. Bah, cette semaine, c'est Bradley Cooper. Verdict, le pitch de Fiona.
Alors, A Star is Born, Jackson Maine, une star de la country dont on nous dit qu'il est sur le déclin, mais qui remplit quand même des stades et se fait reconnaître par absolument tout le monde, se retrouve un soir, par hasard, dans un bar de Travelo. Il va y rencontrer Ali, interprétée par Lady Gaga, une chanteuse qui ne vit pas de sa passion, mais qui va le subjuguer. Épris de la jeune fille, il va tout faire pour la revoir et pour la laisser exprimer son talent. Ainsi, il l'invite à l'un de ses concerts où il la fait monter sur scène pour un numéro digne du final de High School Musical. Le public est conquis et Ali et Jackson vivent dès lors une idylle amoureuse sans pareil. Seulement, si le succès d'Ali croît de jour en jour, celui de Jackson meurt à petit feu. Cela va créer des tensions au sein du couple, bien que la chute de Jackson ne soit en rien liée à la réussite d'Ali. Mais il lui reproche tout de même de perdre son authenticité. Comment, Lady Gaga, pas authentique ? Bref, Jackson va alors noyer sa peine dans l'alcool. Ah non, en fait, il a toujours eu un léger problème avec l'alcool, mais ce détail a pu vous échapper, car son penchant pour la boisson a été montré de manière très très subtile, tout juste perceptible au début du film et au milieu et tout le temps. Quoi qu'il en soit, c'est la descente aux enfers pour Jackson qui se fait remplacer par des petits jeunes sur scène et qui ne joue plus que dans des congrès pharmaceutiques. Et alors qu'Ali obtient son premier Grammy Award, Jackson va lui foutre un tout petit peu la honte en la rejoignant ivre-mort sur scène et en se pissant dessus devant tout le monde. C'est ce qu'on appelle une boulette. Il comprend alors qu'il doit se prendre en main et va en rehab avec le soutien indéfectible d'Ali qu'il aime plus que tout au monde. Remis sur pied, Jackson va se faire sermonner par le producteur d'Ali qui lui fait comprendre qu'il sera toujours un poids pour la carrière de sa femme. Ainsi, Jackson commet l'irréparable et là, sortez les mouchoirs. Il se suicide. Voilà. Ah, et aussi, il avait un problème d'audition, mais ça a servi à rien et c'est pas la cause non plus de sa déchéance, donc voilà.
Très bien, Marie.
Moi, je voudrais dire que le titre de la chanson phare du film s'appelle Shallow, ce qui veut dire superficiel en surface. Et il me semble que c'est un bon résumé de toute l'intrigue de A Star is Born. De manière globale, j'ai l'impression qu'il y a plein de pistes qui sont évoquées, parfois des pistes très intéressantes hein, par ailleurs, mais elles ne sont absolument jamais, jamais approfondies, développées, tirées. Comme tu dis, il a des problèmes d'audition, mais après, on oublie. Il a des problèmes d'alcoolisme, mais c'est pas pour ça qu'il se suicide. Enfin, en fait, tout est lancé, mais jamais abouti. Et voilà, je trouve que c'est le plus gros défaut du film.
Très bien, Marine.
Oui, pour aller dans le même sens que Marie, moi j'ai vainement cherché un obstacle quelque part dans le film. Donc depuis le début, Ali, elle devient une star quasi immédiatement. En fait, elle est repérée par une star qui l'a fait monter sur scène et puis elle chante très bien et puis elle a du succès tout de suite. Et puis elle va faire un album et puis elle va avoir un Grammy. Et puis en fait, sa relation amoureuse se passe extrêmement bien. Il y a un moment où ils commencent à s'engueuler et on se dit « Ah, une dispute !» Et puis en fait, non, parce qu'il la demande en mariage. Donc en fait, tout va bien. Et puis au bout de 2h15 de film, il meurt, mais elle a du succès. Donc voilà, je sais pas trop ce que j'ai vu en fait, mais en film, en tout cas, il y a zéro conflit, zéro obstacle, c'est un peu dommage.
Oui, Claire, ton avis sur ce film ?
Je suis plutôt d'accord et j'ai envie de dire, en fait, c'est, s'il y avait eu des conflits et des obstacles, il n'y aurait pas eu assez de temps pour les chansons de Lady Gaga. Donc vous ne comprenez rien à la vie.
Oui, c'est pas faux, Fiona.
Bah, justement, c'est, ce qui est dommage, c'est que là, normalement, je pense que le but du film, c'est de montrer comment la carrière de l'une, pour le coup, de la fille qui monte, devrait être la raison pour laquelle celle du mec tombe. Et c'est pas le cas. Du coup, les conflits dans le couple, il y en a à peine. Alors que si seulement ça avait été, par exemple, ah, on t'a vu avec cette jeune nana, ah, t'es tout seul en concert maintenant, ah, tu veux pas plutôt que la nana vienne, tu veux que ce soit elle la raison de sa déchéance, là, il y aurait des conflits et là, il y aurait eu ben, de quoi se disputer.
Et puis tout est...
Mais il n'y en a pas.
Extrêmement facile, enfin voilà, c'est tout lui arrive tout cuit dans le bec quasiment tout le temps, et il y a vraiment pas un seul conflit. Et comme disait Marie Fiona, bah il y avait des possibilités de tirer de la ficelle là-dessus, effectivement. Bah, vu que c'est lui qui l'a fait monter sur scène, elle aurait pu prendre sa place parce que les gens veulent l'avoir à sa place, et mais c'est pas le cas, donc au final, oui, c'est pas grand chose, quoi.
Et je pense que ce qui est embêtant aussi, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui est le héros du film. On ne sait pas si c'est Jackson Maine et que ça nous, enfin, est-ce que ça nous raconte, est-ce que ça nous raconte sa déchéance, ou est-ce que ça nous parle vraiment, parce que le titre c'est A Star Is Born, mais finalement, on ne sait pas si c'est plutôt Lady Gaga qui est plus l'héroïne du film. Et puis c'est pas le couple non plus, parce que la relation est tellement immédiate qu'on a du mal à y croire. On ne sait pas pourquoi Bradley Cooper il tombe amoureux de cette meuf.
Il y a un coup de foudre, ça.
Il est subjugué. Oui, par sa
pourquoi
voix.
Pourquoi ? Parce que c'est un chanteur professionnel. Il remplit des stades par millions. Je veux dire, des chanteuses talentueuses, il doit en croiser tous les jours. Pourquoi elle ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi d'un coup il se dit.
Le fait est qu'il a eu raison, puisqu'il devient une star planétaire. Il a su des détails en elle, que les autres n'ont pas pu voir.
La scène où il tombe amoureux d'elle, il nous manque quelque chose. Est-ce que par exemple.
Il n'y a que le regard de Merlin Fried.
Oui, il pleure.
Il la regarde avec des yeux. Alors qu'en plus.
Non,
ce qui est encore plus curieux, je trouve, c'est qu'à chaque fois, il parle, lui, il prône beaucoup l'authenticité. Et la première fois où il l'a vue, où il est tombé amoureux d'elle, elle n'est pas elle. Elle est déguisée en travestie. Donc c'est pas vraiment elle. Elle n'est pas dans son authenticité.
Et surtout, elle chante La Vie en rose, pas du tout en tempo. Hein. C'est moi qui est choquée. Oui, Marie.
Oui, bah justement sur la thématique de l'authenticité, moi c'est le problème que j'ai avec le film, c'est que je trouve qu'ils sont passés à côté de leur sujet, parce que en fait tout ce qu'il lui dit lui depuis le début, donc quand il l'a fait monter sur scène au début, elle chante, elle est naturelle, elle est pas travestie, elle est pas maquillée entre guillemets, enfin elle porte des costumes, c'est un peu country, il est un peu fait de la country, Jackson Maine, donc c'est et tout ce qu'il porte en fait comme valeur, il lui dit tout le temps, il faut que tu parles avec ton cœur, il faut que tu te dises des choses authentiques, il faut que tu parles directement aux gens parce que t'as des choses à dire, t'as une vision et c'est ça qui fait que tu vas durer et que le public te suivra. Or en fait, le message du film à la fin, c'est qu'elle fait exactement l'inverse puisqu'elle se retrouve à chanter Saturday Night Live ou chez Jimmy Kimmel, je sais plus, et avec Baldwin, à chanter des chansons hyper vulgaires, je sais plus c'est quoi la phrase.
Elle parle de son cul en gros,
et lui dit d'ailleurs mais qu'est-ce que c'est que ces paroles, enfin t'as complètement changé, on la reconnaît plus, et en fait c'est ce qu'elle va faire jusqu'à la fin du film. Il n'y a pas un seul moment où elle revient en arrière,
si,
où elle se pose des questions.
Elle a toute fin,
mais pas vraiment. Et enfin, attends, je reviens là-dessus. Et lui, il meurt avec ce message, et à aucun moment. Je trouve que c'est assez terrible de ce que ça dit de l'industrie de la musique, de ne va prévaloir que la pop et ce genre de musique, et qu'on oublie en fait ce message d'authenticité. On a l'impression que ça enterre ça, ce message, c'est horrible.
Je pense que l'authenticité, ils ont voulu la faire passer sur la dernière chanson en fait, peut-être.
Oui, mais alors la dernière chanson, c'est ce que disait. Ouais, c'est ce que Fiona, c'est ce que tu voulais dire sur la fin. Pour moi, ça veut pas dire ça. Moi, c'est juste, elle rend hommage à son mari en chantant la chanson qu'il a écrite pour elle. Ça remet pas en cause ce qu'elle a fait.
Je suis d'accord, mais surtout qu'en plus, ça m'a étonné que Lady Gaga accepte de tomber là-dedans, parce que c'est en train de critiquer la carrière de Lady Gaga, qui dit mais enfin, meuf, il s'adresse carrément à la chanteuse, t'es en train de chanter de la merde, et je vais le prouver en donnant un rôle où tu chantes de la merde. Est-ce que ces chansons qu'elle chante quand elle est avec Baldwin, c'est du pur Lady Gaga? Donc la meuf est en train d'elle-même de tourner un film où elle reconnaît que sa carrière c'est de la merde.
Je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que ça m'a aussi perturbée, parce que il lui dit regarde ce que tu fais, tu te teins les cheveux, t'es plus toi, donc exactement ce que fait Lady Gaga encore plus fort dans sa vie, mais le message mine de rien c'est bah ouais, mais c'est ça qui marche, parce que c'est comme ça qu'elle est nominée au Grammy Awards, quoi.
Donc bah peut-être qu'elle prend du recul sur elle-même aussi.
Lady Gaga, tu veux dire ?
Ouais. Oui, Marie.
Et surtout qu'au début du film, Ali est très très outrée que Jackson se fasse prendre en photo à son insu. Il y a plein de moments où.
Mais voilà, c'est pas joué, mais, ça.
Bah, c'est pas traité. Sauf que c'est posé dès le début que lui, il est authentique. Et résultat, il se fait emmerder, sa vie est très très compliquée. Et on pourrait se dire que, justement, forte de cette leçon, Ali se dit je me transforme, l'authenticité, je la mets à distance pour protéger ma vie privée, mais finalement, c'est pas non plus ça qu'on nous raconte.
Oui, Fiona.
Exactement, pour vivre heureux, vivons cachés, ça aurait pu être un thème, justement, sur leur différence à traiter leur métier par rapport à leur vie intime. Et c'est ça qui aurait pu causer des conflits dans le couple, mais c'est traité au tout début, justement. Elle dit tu te fais prendre en selfie comme ça. Elle s'énerve, elle frappe un mec carrément qui lui demande un selfie.
Mais ça sort de nulle part.
Ça sort de nulle part. D'un coup, elle s'énerve pour lui.
Et elle s'énervera plus jamais après.
Oui, et on n'en parlera plus jamais. Et puis, elle, à la fin, elle dit à aucun moment, elle dit je ne veux pas être authentique parce que si je suis authentique, ça va me bouffer ma vie privée. Elle ne dit jamais ça et elle ne devient pas non plus assez différente dans sa transformation pour les Grammy pour ne pas être reconnue. Enfin. Comme Lady Gaga est méconnaissable pour le coup. Lady Gaga, tu la croises dans la rue avant ce film-là, tu sais pas que c'est Lady Gaga.
Ouais, c'est vrai, Marine.
Mais je pense pas que le film en fait ait été écrit pour parler de ça. Moi, je crois que le film il a été fait juste pour te montrer une histoire d'amour entre Bradley Cooper et Lady Gaga et te montrer des scènes pseudo-romantiques. Personnellement, j'ai trouvé extrêmement mielleuse, mais à un point, enfin vraiment, là on est dans le cliché de la comédie romantique.
C'est même pas drôle. Sans rebondissement.
Je veux dire dans le symbolisme et dans quand ils te montrent les plans quand ils sont ensemble, ils la regardent avec des yeux de Marlon Frey comme disait Fiona, enfin toutes ces images qui sont ça dégouline quoi. C'est
oui. Claire,
pour rebondir là-dessus sur ce que tu dis, en fait je pense que s'il n'y a pas de conflit entre eux, enfin si tout est désamorcé à chaque fois, c'est parce qu'ils se disent oh, mais leur histoire d'amour est tellement incroyable, ils s'aiment tellement fort que même s'il arrive quelque chose de grave, eh bien ils continueront à s'aimer. Mais c'est pas forcément ça, les histoires d'amour, justement ça grandit dans le conflit, dans
l'adversité.
Voilà, ouais, exactement.
Mais c'est complètement irréaliste quoi. À aucun moment tu y crois pendant le film. Enfin,
on dit que toutes les scènes sont clichés. Moi je suis mis à la scène où la première fois qu'ils vont coucher ensemble, il est tellement ivre mort qu'il s'écroule et puis il se réveille au milieu de la nuit pour coucher avec elle. Mais je me suis dit bon, ça au moins.
Ah, ça c'était la seule scène où je me suis dit c'est pas réaliste.
C'est pas dans le cliché du romantique où ils couchent pendant un feu d'artifice, oui. Fiona.
Mais c'est vrai que le problème d'avoir tout misé là-dessus, et pourtant, je ne sais pas pour vous, mais quand Bradley Cooper meurt, j'ai eu zéro émotion. Je n'en avais rien.
Mais pourtant, il y a le chien qui l'attend dans la maison, qui le regarde mourir, et après, il est couché devant le garage.
En plus, moi, je connais quelqu'un qui pleure tout le temps au cinéma, très facilement, et pour ce genre de choses, et qui m'a dit « Oui, là, j'avoue que ça m'a un peu laissé de marbre. » Dire « Bon, merde, quoi. On a le personnage principal qu'on a vu en gros plan pendant 2h30 qui se suicide et on fait. Moi, limite, je suis là, enfin.
Je me suis dit, ça fera toujours une chanson de moins. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il chante.
Raté parce qu'il chante derrière, du coup.
C'est vrai. Non, mais on va quand même parler, je trouve, moi, une des rares bonnes scènes du film. C'est la scène justement où il reçoit son Grammy et qu'il monte sur scène. Alors après, ça a pu être évité assez facilement.
Je trouve que c'est plus tassier, moi.
Non, j'ai bien trouvé qu'il monte sur scène et puis juste avant, attention, c'est quand même écrit, il pose j'ai envie de pisser. Et quand même, 30 secondes après, il se pisse dessus. Excusez-moi, c'est pas un pain payoff réussi, je ne sais pas ce que c'est.
Non, mais tout est pain payoff, tout est montré. C'est que du surtexte.
Une payoff, juste pour expliquer, c'est quand on implante un élément et dont on se resserre plus tard.
Oui, Claire.
Donc, en fait, je suis comme toi, en fait, il y avait une espèce de côté pathétique dans cette scène. Et ce qui marchait, en fait, c'était le côté, vous savez, au Grammy, quand elle arrive hyper émue, ah, c'est le plus beau jour de ma vie. Donc, tout ce côté un peu sucre, un peu miel qu'il y a dans le film et qui, d'un coup, est complètement pitoyable, enfin, très triste. Et je trouvais que c'était plutôt ça, et un peu absurde, et c'était un peu ça qui marchait. D'un coup, le côté un peu sucre du film était un peu tourné au ridicule. Mais en fait, ce n'est pas du tout en adéquation avec le reste du ton du film. En fait.
Oui, mais bizarrement, tu vois.
Et elle avait cette espèce de robe un peu grotesque, enfin, tout était un peu grotesque dans cette scène. Et
c'est vrai, mais tu vois, j'ai trouvé ça presque un geste touchant, c'est quand elle se pisse dessus, elle prend sa robe et puis elle le met devant lui pour pas qu'on le voit. Et d'ailleurs, juste après, l'agent de Ali, enfin, Lady Gaga, on va appeler par son personnage, lui dit « Ouais, non, mais tu nous as embarrassés, c'est horrible, les gens ont envie que tu sois plus avec elle. » Sur ses faux, aux États-Unis, les gens adorent les femmes qui sont fidèles à leur mari. C'est été reproché à Skyler dans Breaking Bad quand elle dit l'actrice recevait des lettres de menaces de mort parce que son personnage avait abandonné son mari. Donc là, clairement, elle ne quitte pas, elle protège son mari. Je suis sûr que les Américains auraient adoré cette histoire en vrai.
En plus, le problème, c'est que cette humiliation, on ne la traite pas. On la traite,
elle est complètement ellipsée.
Elle est ellipsée. C'est juste l'alarme qui lui fait dire « Ok, je vais aller me désintoxiquer. » Mais dans la vie d'Ali, on la traite pas du tout pour elle. On se dit, après cette scène, rien n'a changé pour sa carrière.
C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai parce qu'en termes d'écriture, ça pousse l'agent à lui dire, à aller voir Bradley Cooper et lui dire « Tu nous embarrasses. » En gros, on sait très bien
oui,
que tu vas replonger.
Oui, mais sur sa vie à elle.
Mais oui, c'est vrai. Parce que du coup, c'est ce qui pousse le mec.
On n'a pas vu les conséquences.
Il y a un dialogue où il lui dit « Ouais, on a mis du temps à s'en remettre de ce que tu lui as fait au Grammy. » Bon,
on l'a pas vu. On l'a pas vu, voilà.
Et mais oui, parce qu'on était sur lui. On était dans sa réhab, plutôt quand il roule avec le chien. Tout
alors
ça,
du coup, il y a un problème de point de vue. Parce que, évidemment,
ce que disait Marie, c'est le film de qui, en fait
bah, exactement, bah, c'est un film de duo, mais bon, là, ils auraient pu montrer. Ouais, mais ça aurait été chiant d'avoir souffrir, pleurer. Tu vois, les scènes, justement, là, pour revenir sur les rares qualités que j'ai trouvées au film, la scène de deuil est très vite expédiée. Et ça, au moins, ça fait du bien. On la voit pleurer une fois dans sa fenêtre, elle pète les cadres qui sont chez elle, et après, on passe à autre chose.
Tu crois qu'elle a mis des petits pois sur sa main après
Ah, ça aurait été une très belle scène,
drôle.
Ça
aurait été bien.
Oh putain, comme ça, elle aurait repensé à lui. Putain, Claire, voilà, bravo, bah, t'aurais pu sauver le film.
Au-delà de ça, rapidement, juste dire tous les autres éléments qu'ils implantent et dont ils ne se servent pas, comme la surdité, les problèmes d'audition de Jackson Maine, ça ne sert à rien. La relation avec son frère et son père, le fait qu'il admire son frère, qu'il lui a volé sa voix. Ça ne sert à rien.
J'ai pas compris.
Il parlait de la voix sonore ou la voix.
J'ai pas compris.
On ne sait pas. Ouais, parce que il dit toujours aussi. Oui, parce que toi, t'avais rien à dire. Pardon, mais les chansons que chante Jackson Maine, le texte, c'est quand même pas du Baudelaire. Il y a pas un message très fort.
Il a un point de vue sur le monde.
Il y a pas de point de vue sur le monde. Non, mais c'est vrai.
Il dit que c'est difficile pour un homme de changer. Et ça, il le répète. Non, mais quand
d'ailleurs,
je disais
il ne change pas. Donc
répété, dit. Tout ce film est un surtexte. Même les chansons qu'il chante veulent dire. Racontent le personnage. Et la première fois qu'il voit Ali, dans la soirée même, il lui raconte toutes ses failles. Oui. Il lui dit à quel point sa famille. Enfin, on dirait qu'il se met à cœur nu comme ça. Enfin, regarde, je suis un homme blessé. Et puis voilà.
Ouais, on peut parler des dialogues. Ouais. Non, mais les dialogues, mais c'est une catastrophe. On est d'accord.
Enfin, c'est horrible.
C'est, comme tu dis, c'est surdit. Tout est.
Mais c'est écrit par Bradley Cooper.
Il n'y a absolument aucune subtilité dans ce film. Le mot subtilité, c'est un mot qu'ils ne comprennent pas, qui n'existe pas dans leur dictionnaire. Mais juste moi, c'est le début. D'ailleurs, j'ai vu le film avec Marie, on a bien rigolé. C'est ça le problème aussi. Ce film-là est dénué d'humour, mais j'ai bien rigolé. Il y a la première scène qu'on voit, où on voit Jackson. Avant le concert, il boit dans sa flasque. Il picole un peu.
Non, il prend des médocs et il boit.
Il fait son concert, Il va dans sa voiture avec son chauffeur après le concert. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y a une bouteille dans la voiture. Il boit au goulot. Et on se dit, ouh, dis donc. Est-ce qu'il aimerait pas bien boire, cet homme-là? Après, il fait, attends, non, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Arrête-moi, là, il y a un bar.
Il y a de l'alcool, c'est
attends,
bon.
Ah ouais, c'est ça. Il va dans le bar. Les mecs le reconnaissent. Ils disent, c'est un bar à Travelo. Je suis pas sûre que ce soit votre genre de bar. Il dit, s'il y a de l'alcool, c'est mon genre de bar.
Ah, je crois que cet homme aime bien boire.
Ouais, je crois qu'il a
plusieurs indices.
Ces petits indices qui nous disent que peut-être qu'il est alcoolique. Mais peut-être, je ne voudrais pas m'avancer.
Non, moi j'ai compris.
Mais il a pas fait de chanson dessus, par contre.
Oui, bon,
Je peux dire aussi juste. Excuse-moi, il y a juste la première scène où on découvre aussi Ali, qui me fait beaucoup rire parce que dans le genre what the fuck, aucun sens, on a Ali qu'on découvre dans les toilettes du restaurant où elle travaille. Un restaurant un peu chic, si.
C'est pas la première scène.
C'est la première scène où tu la vois, elle est dans les toilettes, au téléphone.
Elle rompt en chuchotant avec son mec parce qu'elle est au travail.
Dans les toilettes vides.
Dans les toilettes vides, elle rompt en chuchotant avec son mec en disant « Non, mais c'est pas toi, t'es un mec génial, t'es un super bon avocat, c'est juste qu'on n'est pas compatible. » Voilà, bon, on voit que le mec est génial, il essaie de la rattraper, mais voilà, on n'est pas compatible, t'es un mec génial, etc. Elle raccroche, elle sort des toilettes et d'un coup, elle se met à hurler « Fucking man !» Quoi? Pourquoi fucking men? C'est toi qui l'as quitté.
Juste pour montrer qu'elle a de la voix, je sais pas.
Non, mais c'est elle qui l'a quitté. Elle dit d'elle-même que c'est un mec bien. Et d'un coup, elle déteste les hommes et elle a besoin de le hurler dans les toilettes.
Et elle tombe amoureuse une semaine après.
Ça ne sert à rien.
Mais non, mais tu comprends pas, c'est parce que c'est à elle qu'elle en veut en fait. Mais elle en prend aux autres. C'est très subtil cette scène. T'as rien compris.
Elle était là la subtilité. Ouais, on l'avait pas vue.
Mais oui, alors on arrête là pour ce film, tour final. Claire.
Dommage.
C'est dommage. Hein.
Non, je le recommande pas.
Tu t'expliques pas pourquoi. Non,
je pense qu'on en a assez parlé.
Ok, Marie.
Eh bien, je suis assez déçue parce qu'effectivement, moi j'aime bien les films musicaux et j'aime bien les films d'amour. Je pensais avoir les deux et sortir de cette séance très heureuse et j'étais très déçue. Surtout que je pense qu'il y avait énormément de sujets très intéressants à aborder. Et bon, ils sont tellement effleurés que non, je ne recommande pas ce film, malheureusement.
C'est vrai qu'on va quand même te dénoncer, c'est de ta faute.
Oui, c'est de ta faute.
Non, mes amis.
Non.
Fiona,
Je voudrais m'adresser à nos auditeurs, s'il y en a.
Surtout les auditeurs de Los Angeles.
Ouais, non, mais n'importe où. Non, mais vraiment, tous les auditeurs, j'ai une vraie question. Voilà, je ne comprends pas. C'est vraiment, j'essaye de comprendre, mais je ne comprends pas comment on peut être ému devant une telle bouse. Je ne comprends pas comment l'émotion peut passer à travers autant de clichés, de niaiseries et de dialogues si mauvais. Donc, s'il vous plaît, commentez, expliquez-nous ce qui vous a plu, parce que ça m'échappe complètement. Voilà, et c'est un film horrible.
Très bien, je pense que tu as un cœur de pierre. Bah écoutez, ce film m'a profondément même pas déçu, parce que j'en attendais rien. Mais je crois que la pire scène, on n'a pas parlé, c'est la scène où Bradley Cooper dit à son grand frère, qui est plus ou moins son père de substitution, et lui dit « J'ai piqué ta voix, et tout ce que je voulais, c'est que tu sois fier de moi. » Et là, on voit le grand frère qui fait un créneau avec les larmes aux yeux. Là, j'ai éclaté de rire. Et les gens sont tournés vers moi dans la salle, donc je suis désolé de vous avoir gâché le film. On arrête là-dessus et on continue avec Girl, écrit par Lucas Dont et Angelo Tissi. Je suis désolée, c'est du flamand, je dois mal le prononcer, et c'est Claire qui nous le pitch.
Alors Girl, c'est l'histoire de Lara, c'est une adolescente de 15 ans qui souhaite devenir danseuse classique. Dans sa quête, elle peut compter sur le soutien de son père, et alors qu'elle intègre une école de danse, elle commence commence pour elle une longue lutte, une lutte contre son corps, parce qu'en fait, Lara est née dans le corps d'un homme. Voilà.
Très bien, Fiona.
Alors, comme c'est un film donc, qui parle de transsexualité, de changement de sexe, je ne peux dire que ce film... C'est des films qui parfois me font un peu peur, j'ai toujours un peu peur de que ce soit lourd, etc. Et je ne peux que dire que ce film est très réussi, pour la simple et bonne raison que... Aucun film, et je pense qu'aucun livre ou aucun témoignage ne pourrait autant me sensibiliser à ce sujet que ce film. Grâce à ce film, j'ai eu l'impression vraiment de comprendre ce que pouvait ressentir quelqu'un de transgenre, et ça ne m'était jamais arrivé. Donc, à ce niveau-là, alors c'est sûrement la compilation entre le jeu des acteurs qui sont formidables, l'image et le scénario, mais du coup... Pour moi, le message, c'était ça, et il est complètement passé pour moi, donc réussite totale.
C'est vrai que c'est un film qui aurait pu très, très, très facilement tomber dans les clichés, dans le mélo, c'est dans le pathos, c'est absolument pas. Et quand on dit que Star is Born ne sait pas être subtil, bah voilà un film qui sait être subtil, il faudra l'envoyer à Bradley Cooper. Marie.
Oui, en fait, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que j'ai trouvé que les scènes étaient d'une grande justesse et retranscrivaient extrêmement bien les petites humiliations du quotidien de Lara. Alors c'est tout simple, à un moment donné elle se dispute avec son petit frère et accidentellement il l'appelle par son prénom de garçon.
Il l'appelle Victor.
Je suis pas sûr que ce soit accidentel. Hein.
Non mais en tout cas ça passe comme
ça. Non mais si parce que
elle le fait volontairement
parce qu'elle l'oblige à s'habiller, il veut pas.
En tout cas c'est la petite ce genre de petite scène où alors à un moment elle est invitée à une pyjama party chez des copines voilà et donc elle est invitée en tant que fille mais elle est la seule à devoir dormir dans une chambre à part parce que en fait c'est un garçon. Donc ça c'est des petites humiliations puis il y a des grosses scènes d'humiliation qui sont vraiment terribles dans le film où j'étais extrêmement émue, enfin c'est bouleversant, en plus l'acteur joue merveilleusement bien, mais par exemple voilà, il y a une scène atroce où les filles de son école, sous prétexte que Lara les a déjà vues à poil dans les vestiaires de son école de danse, exigent de voir son pénis et elles se mettent autour d'elle et elle a pas le choix de soulever sa robe et de montrer son pénis, c'est terrible.
Oui, Claire.
Moi, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, tout est vraiment dans le sous-texte. Rien n'est appuyé. En fait, à chaque fois, on est vraiment dans l'intériorité du personnage. Je trouve que c'est vraiment un film de personnage, et on est vraiment avec Lara. Et chaque fois qu'il y a un petit mot, on voit juste, on la voit très, enfin, légèrement tiqué et comment dire
prendre sur elle.
Prendre sur elle pour aller au-delà, mais à quel point c'est douloureux pour elle. Et je trouve que quand on lit les témoignages des personnes transgenres, elles parlent souvent de ça, on appelle ça les micro-agressions, en fait. C'est vraiment... et je trouve que le film le retranscrit extrêmement bien.
Très bien, Fiona.
Justement, c'est marrant que vous appuyiez sur ces mini-humiliations, mais moi, j'ai plutôt envie de dire que tout se passe bien pour elle dans ce film.
Oui.
Parce que c'est un film, justement, où elle a une famille, dont un père, mon Dieu, donnez-lui l'Oscar du meilleur père de l'année. Ouais. Mon Dieu, ce père est merveilleux. Il réagit exactement comme il devrait à chaque scène. Il est formidable, ce père.
Et pourtant, ça marche pas.
Et voilà, et c'est ça, en fait, ça qui est génial, je trouve, dans ce film, c'est que tout se passe bien.
En fait, conflits, c'est elle.
Les conflits sont complètement internes. Et en fait, donc on a le père, et même le petit frère, qui est quand même adorable, même malgré ce petit moment où, justement, il a 6 ans, il s'énerve et il l'appelle Victor. Tous les autres moments, il l'appelle Lara. Il est d'accord avec ce changement.
Toute la famille.
C'est vrai que toute la famille est d'accord. Il y a une scène de famille. Tout le monde est là avec elle. Elle rentre dans cette école de danse qu'elle voulait intégrer. On la met avec les filles normalement. Enfin, ça se passe bien. Et même s'il y a cette copine entre guillemets élève qui lui dit ah mais attends mouton ta bite, c'est bien normal. Je peux même pas lui en vouloir, moi, à cette gamine, parce que c'est une curiosité qu'on aurait tous et qu'on a tous de dire, tiens, c'est bizarre, allez, monte-nous, machin. Elle a 15 ans, donc qu'elle soit pas subtile et qu'elle aille dans la maladresse et un petit peu dans l'humiliation, mais elle dit, oh, ça va, c'est bon, vas-y, fais pas de teint plat, monte-nous ta bite. Vraiment, ça témoigne d'une curiosité qui est humaine et je lui en veux pas, moi, à cette gamine. C'est un peu plus, elle est un petit peu plus. Oui, elle est plus la perverse à partir du moment où Lara dit non. Voilà, où là, elle insiste et là, c'est lourde et là, tu vois que c'est un peu la petite peste de 15 ans, quoi. Mais à part ça...
Non, mais c'est vrai que le point de départ est idéal,
tout se passe très bien. Donc c'est pour ça qu'en fait, on se concentre vraiment dans sa souffrance à elle, son point de vue interne, et son impatience, surtout à être une femme. Et c'est très touchant. Et j'ai aimé en sortant de la salle. Et en fait, il est resté avec moi en sortant de la salle. Et plus les jours sont passés, plus je me suis dit, waouh, ce film m'a vraiment marqué.
Non, justement, moi, j'ai trouvé le film... qui est divisé en 3 actes. 2 premiers sont bien parce que justement il n'y a pas de conflit et tout. Au bout d'un moment, j'ai trouvé que Lara en faisait trop. Je veux dire, ok, tout va bien dans ta vie. Tes parents t'aiment, ton école ça va bien, elle a des cours particuliers pour l'aider à rattraper son retard. Tout va bien. Au bout d'un moment, je me dis, bon, tu nous emmerdes un petit peu, Lara, là. Prends sur toi, prends tes médocs, sois patiente et c'est bon.
Oui, mais justement, ça montre bien que c'est une adolescente aussi. Elle a son âge et c'est un peu sa crise aussi.
Sur l'adolescence.
Elle veut aller plus vite, elle veut changer plus vite et elle a une souffrance encore plus pénible que les autres et c'est normal qu'elle fasse des bêtises énormes comme la fin où elle se coupe le zizi.
Je trouve qu'au-delà de ça, en fait, cette impatience, elle traduit vraiment de son mal-être. Ça montre vraiment à quel point elle ne supporte pas ce corps. Ça montre vraiment cette souffrance cette répétition. Les scènes se répètent beaucoup. Et en fait, à chaque fois, plus les scènes vont se répéter, plus on va sentir crescendo cette souffrance monter. C'est vraiment subtil chaque fois, mais on est vraiment avec elle et on est dans la douleur avec elle. C'est très très bien retranscrit.
Marie ?
Justement, tu parlais de corps et je trouve que le principe du film est extrêmement bien trouvé. Quoi de mieux que la danse pour parler des corps, parce que les corps on les voit tout le temps, ils sont tout le temps là, ils sont magnifiés, ils sont
c'est l'instrument de travail,
c'est extrêmement bien trouvé et d'ailleurs je trouve que les rapports à la féminité, à la masculinité dans ce film sont très bien trouvés. Il y a une scène fantastique qui est très fugace, mais Lara se réveille un matin et putain elle a une érection. Et elle se cache sous sa couverture parce que pour elle, c'est insurmontable. Quoi. C'est vraiment difficile. Il y a plein de choses comme ça. Quand elle se regarde dans la glace pour voir si enfin le traitement hormonal va marcher et si ses seins vont commencer à pousser. Ou quand elle se scotche le sexe pour pas qu'on le voit, pour pouvoir mettre un juste corps comme les autres filles et faire comme. Je trouve que tout est très, très bien trouvé, tout est très bien pensé. Et on nous montre beaucoup. voilà, c'est un film qui nous montre et qui nous fait passer des messages extrêmement en beauté.
Alors je vais jouer les
avocats. En tendresse aussi.
Je vais jouer les avocats du diable, mais justement, je trouve qu'ils auraient pu le traiter. C'est le fait que justement, ça soit un homme dans le monde d'une femme, quoi. C'est-à-dire que je pensais qu'ils allaient traiter ça en disant que, bah, que les autres porteurs disent, bah, on n'arrive pas à la porter parce qu'elle est plus forte que les autres. Là, j'ai entendu aux États-Unis, il y a un scandale parce que, apparemment, c'est la même chose, c'est une fille qui est devenue un homme ou un homme qui est devenu une femme et qui s'est inscrit à un tournoi de lutte et qui a étalé tout le monde. Bah évidemment, parce que c'était un homme, donc du coup les autres on dit ouais mais c'est pas juste, il y a un côté injuste que ça soit un homme qui profite de sa force masculine entre guillemets, là où une femme est plus faible, mais là que ça va, parce que c'est pas une compétition à gagner, c'est plus un travail d'équipe, donc ça encore ça passe. Oui, Fiona.
Mais effectivement, sur les portées, ils auraient pu le signaler et faire encore une micro-humiliation de pourquoi
moi,
nous on porte là.
Mais
je suis pas sûre que ce soit nécessaire parce que le sujet c'était vraiment son intériorité et ses problèmes, et je pense que c'est assez montré, et justement de pas en faire trop là-dessus. Mais je comprends ce que tu dis, mais ça m'a pas manqué personnellement.
Moi non plus.
Je voudrais changer de sujet, mais c'est vrai que le personnage de Lara, je trouve extrêmement féminin et extrêmement femme. Elle a 15 ans, c'est vrai qu'à un moment donné, moi je me suis demandé dans le film quel âge elle avait, parce que elle se maquille un peu, évidemment, comme elle est née dans le corps d'un garçon, je pense qu'elle fait un peu des efforts pour vraiment mettre sa féminité en avant, et il se trouve que dans sa famille il n'y a pas de femme, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas la mère, et Lara se retrouve, elle s'occupe du petit frère le matin, elle fait à manger en cuisine quand
c'est tellement sexiste, en plus c'est faux, c'est le père qui fait à bouffer,
non, à un moment donné elle prépare le repas à côté, quand il y a
elle joue un peu la mère de ses petits sujets,
oui voilà, et je trouve, et ça aussi tu vois, la mère est en creux, il n'y a pas de mère, on ne sait pas pourquoi, ce n'est jamais expliqué. Et Lara prend un peu... Enfin, on se dit, si elle était restée un garçon, ça aurait été une famille que d'hommes. Et en fait, là, il y a une figure maternelle féminine. Elle parle avec son père. Parfois, t'as l'impression que c'est d'adulte à adulte, même.
Et d'ailleurs, c'est dit à un moment, la famille autour... Il y a un repas de famille à un moment. Et la famille autour ne fait que des garçons. Elle n'a que des cousins.
Je m'en souviens plus. Non, attends, juste avant de te donner la parole, quand tu dis qu'elle parle d'adulte à adulte, hier, quand elle le fait chier avec son portable pour se moquer de lui et de son date... Elle a vraiment une réaction d'enfant, quoi. Ça, je te pique ton portable, c'est qui ?
Elle a une maturité. On sent que la mère est absente et qu'elle a pris la place de la mère.
Oui, bon, Fiona ? Alors,
je vais vous avouer quelque chose, c'est qu'en fait, je ne connaissais pas du tout le pitch de ce film quand je suis allée le voir. Oui. À savoir, j'avais juste vu Girl, j'avais juste vu l'affiche, j'avais même pas regardé les noms, j'avais pas vu que l'actrice était Victor Polster, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est formidable. Et du coup, moi, pendant les premiers, c'est ça qui m'a encore plus, moi, je suis encore plus rentrée dedans, les premières images du film. J'ai vu une femme, vraiment, j'ai vu une fille du début à la fin, et je croyais comme elle, je croyais que c'était son mec, enfin j'avais pas vu que c'était
tu croyais que son père c'était son mec,
ouais, je croyais que son père c'était son mec, je lui dis pourquoi tu te perces les oreilles, la première scène on le voit, elle se perce les oreilles,
la différence d'âge quand même,
oui non mais ça peut arriver, et puis je sais pas, j'avais pas bien vu, et à tel point que quand on l'a vu chez le médecin, enfin enlever son t-shirt pour la première fois, j'ai fait waouh, qu'est-ce qu'elle est plate. Je suis dingue, et après non mais pour vous dire ma bêtise, je la vois en train de parler du traitement hormonal, je me dis ah ok c'est pour les seins, et je me dis attendez. Et là, je tilte enfin, je dis, c'est pour les seins ou plus? Et après, je vois la forme du pénis, je fais, ah, c'est plus, d'accord, très bien. Mais tout ça pour dire que
c'est bien fait.
Premières images du film, moi, j'ai vraiment vu une fille, et à partir de là, c'était une fille pour moi. J'étais complètement avec elle. Et après, effectivement, bon, j'ai vu plus son corps de mec, effectivement, ses fesses, qui ne sont pas les mêmes fesses que les fesses des filles, on les voit souvent, on les voit à la piscine. Elle a un fessier musclé de garçon. Mais c'est vrai que ça, enfin, il y a, pour moi, voilà, le message est forcément réussi, et quand on est auteur, c'est qu'on est là pour transmettre des messages, et celui-là passe de manière incroyable, comme je me répète, mais aucun témoignage ne m'aura autant plongé dans la tête d'un transsexuel, et m'a fait vraiment prendre conscience de ce que c'était. Donc bravo.
C'est vrai que souvent, on s'est plaint, toi et moi, Fiona, même dans ce podcast, en disant mais beaucoup nous parlent de ça, il fallait faire un documentaire. Bah pour le coup, là, cette fiction est beaucoup mieux qu'un documentaire. Et c'est vrai que quand tu dis la féminité, c'est assez perturbant parce que j'ai trouvé assez mignonne, moi, cette fille.
Hein. Elle est mignonne.
C'est oui, c'est une belle.
Est-ce que quelqu'un veut dire un dernier mot avant qu'on conclue?
Oui, moi j'ai un tout petit bémol, c'est que je trouve que sur la danse classique, c'est un peu plein de poncifs, quoi. Ça nous raconte rien sur la danse classique. J'ai l'impression de l'avoir vu dans 10 films différents, les pliants sans quand on fait des pointes, des répétitions qui n'en finissent pas.
J'ai une anecdote super intéressante que j'ai entendue sur les pliants sans.
Attends, on va juger si c'est intéressant. Non. Vas-y.
En fait, donc, là, je resitue pour ceux qui n'ont pas vu le film. Lara n'a pas appris à faire de pointe parce que comme elle est née dans le corps d'un garçon, ben en fait c'est quelque chose qu'on apprend à faire seulement aux
filles. Ouais. Aux filles. Les garçons ne font pas d'os.
Et donc elle doit rattraper son retard et apprendre à faire des pointes. Et bien comme l'acteur qui joue Lara, Victor, je ne sais plus quoi, voilà, est lui-même un danseur classique homme, et bien il a dû apprendre en 3 mois. À faire des pointes, et donc quand on voit les pieds en sang de Lara, c'est vraiment les pieds en sang de l'acteur, vraiment.
Ah. Oui,
je trouve que ça
a donné de sa personne. Ouais.
Au côté organique et brutal, parfois.
Mais écoute, j'ignorais. On termine sur ce film, Claire.
C'est le cadeau. C'est vraiment un film magnifique, je recommande vivement.
Ok, Marie.
Bah, pareil, j'ai trouvé que c'était un film à la fois pudique, sensible, vraiment très touchant, et je le recommande chaudement.
Très bien, Fiona.
À voir et à étudier vraiment le comportement du père et à reproduire. Vraiment, il est parfait, c'est une leçon ce personnage, donc pour tout le monde, faites comme le papa de Lara.
C'est vrai, mais c'est ce que j'allais dire, je trouvais ce film très bien, très subtil, et c'est vrai qu'on voit sûrement le meilleur père de toute l'histoire de la fiction. Mais je tenais juste à dire que le mien est encore mieux. Ouais. Ouais, c'est adorable. On termine avec en joie et dans la bonne heure et dans la monstruosité avec Venom, écrit par Kelly Marcel, Jeff Pinkner et Scott Rosenberg. Et c'est Marie qui nous le pitch.
Alors, Venom, c'est un film un peu compliqué. Donc, un vaisseau de la Life Foundation ramène de l'espace des symbiotes extraterrestres, autrement dit des sortes de larves aliens. Hein, eux, ils appellent ça des symbiotes, on peut dire que c'est des grosses larves, très moches.
Ouais, c'est un peu plus que des larves.
Ces larves ont besoin d'un porteur compatible pour survivre sur Terre. Et Carlton Drake, le PDG de la Fondation, qui croit dur comme fer à une vie dans l'espace, essaye alors de trouver des humains compatibles, mais tous les cobayes meurent les uns après les autres. Ce qui commence à poser des problèmes de conscience, enfin, à une des scientifiques de son équipe. De son côté, et là j'arrive à notre personnage principal, Eddie Brock est un ancien journaliste d'investigation très populaire, une sorte d'Élise Lucet, mais à San Francisco et en moto, qui a justement tout perdu en enquêtant sur la Life Foundation. Il s'est fait virer de son job par son patron et de chez lui par sa fiancée, une avocate qu'il a utilisée pour les fins de son enquête, ce qui était vraiment pas classe du tout. Quand la scientifique scrupuleuse le contacte en secret pour lui révéler ce qu'il se passe vraiment dans les bureaux de la Life Foundation, il y voit le moyen de prendre sa revanche. Mais ce faisant, par un concours de circonstances, il se retrouve exposé à une des larves extraterrestres qui prend possession de lui, car oui, Eddie est en réalité un porteur compatible. Donc il est traqué par Carlton Drake qui veut récupérer son extraterrestre. Mais d'ailleurs, Eddie doit composer avec cet alien qui est en lui et qui s'appelle Venom, qui lui parle dans sa tête et qui lui donne une force surhumaine qui peut aussi parfois prendre totalement possession de son corps et le transformer en monstre. Donc c'est une relation particulière qui se noue entre ces deux personnalités qui partagent le même corps, le parasite et le porteur. Et tout d'un coup, Eddie apprend que en fait, ces aliens sont venus détruire le monde, que va-t-il faire ?
C'est vrai que j'ai même pas compris, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris dans ce film. Quel est le plan des extraterrestres ? Parce que si la Terre n'est pas vivable pour eux sans hôte, donc ça veut dire qu'en fait, à la fin, parce qu'il y a Venom et il y a un autre symbiote qui s'appelle Riot, je crois, et qui, son plan, c'est d'aller dans l'espace, aller rechercher ses potes pour tous les amener.
Oui, mais une fois qu'ils auront mangé tous les humains, on est d'accord qu'ils pourront plus vivre, puisqu'ils auront bouffé tous les porteurs compatibles.
Oui, mais enfin, on est 7 milliards, je pense qu'il y a de quoi, vivre un petit moment, quoi. Mmh. Non, Fiona ?
Ce film, pour moi, c'est le moment où Marvel, enfin c'est en association avec Marvel, a arrêté de même faire semblant d'essayer de raconter quoi que ce soit de cohérent. Voilà, c'est pourquoi s'embêter ? Il y aura de l'action, il y aura des jolies images. Mettez des mots dans un sens. Et puis les gens iront quand même, quoi. Ça n'a aucun sens. Je n'ai pas compris le plan des extraterrestres non plus, parce que ça me paraissait n'importe quoi. Mais surtout, alors ce qui m'a le plus dérangé, parmi toutes les choses qui m'ont dérangé, mais le point central, c'est que donc, Venom prend possession donc, de... comment s'appelle-t-il ?
Eddie.
Il prend possession d'Eddie. Et au début, même, il y a une petite scène de bagarre. Enfin, ils se battent ensemble contre les équipes de Carlton Drake. Et il y a un peu une petite complicité qui naît entre eux. ou même il se moque un peu de lui en
mode, ils sont dans le même bateau parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre.
Exactement.
En fait.
Ouais, et Venom se moque un peu de lui en disant arrête, tu nous fais passer pour des cons, etc. Donc il y a une espèce de fraternité entre eux.
Bah, c'est l'humour Marvel.
Ouais, à la fin de la scène, Venom lui révèle son plan en disant non, attention, hein, je te dis, t'es qu'un taxi pour moi, on va tous vous buter.
Si t'es sympa, je te boufferai peut-être pas.
Voilà, c'est un peu ça. Donc, et ensuite. Il y a une petite scène où Eddie va chez son patron pour montrer pour lui
donner des preuves,
lui donner des preuves de ce que font les laboratoires de Carlton Drake, etc. Juste une scène. Et puis presque la scène suivante, si ma mémoire est bonne, Venom change d'avis sur son plan. Il dit non, finalement, je vais détruire mon pote mes Riot, collègues. Mes collègues, et je vais rester ici parce qu'en fait, t'es un peu un loser. Et moi aussi, je suis un peu un loser. Et en vrai, je t'aime bien. Et du coup, mon plan de détruire la Terre est fini finalement, on est potes et on est amis. Comment on peut à ce point-là se dire non, on en a rien à foutre quoi.
Attends, alors Claire, une question qui n'a pas vu de film.
Oui, j'ai
Claire.
Pas vu le film. Ma question c'est il y a rien qui crée cette bascule, il y a pas
absolument non. Rien.
En fait, c'est un retournement de situation qui est absolument énorme dans le film puisque le méchant devient gentil et en plus ça a une incidence directe sur le héros principal et c'est vrai que ce n'est pas implanté, il n'y a pas du tout de on comprend pas pourquoi il fait ce choix. Alors on nous dit effectivement que c'est un loser qui a trouvé un autre loser et que ensemble ils vont réussir, mais on nous le dit, on ne nous le montre jamais. Il n'y a pas de scène où Venom par exemple se ferait humilier par un autre alien. Il y a pas de, enfin on pourrait dire aussi qu'il pourrait tomber amoureux de l'ex-femme de Eddie. En fait, il y avait quand même plein de choses à faire pour que ce retournement de situation puisse enfin prendre chair.
Non, mais là, on en vient à un des nombreux problèmes de ce film, c'est que ça marchait très très bien dans Spider-Man, parce que j'ai re-regardé en rentrant chez moi, parce que je me suis dit, c'est pas comment ils avaient traité Venom, mais j'ai retapé ce premier Spider-Man, où c'est un loser. Parce que c'est vrai qu'il arrive, il se fait emmerder par ses camarades de classe, il y a même le chauffeur du bus qui l'attend pas, il a aucun avenir, enfin c'est vraiment le loser, et donc du coup, en accédant au pouvoir de Spider-Man, il va se transformer. Là, je suis désolé, mais enfin. L'acteur Eddie Brock est joué par Tom Hardy. Enfin, Tom Hardy, c'est tout sauf un loser. Moi, si je fais trop de bruit chez moi et qu'il y a Tom Hardy qui frappe à ma porte pour que j'arrête ma musique, j'arrête la musique. Non, mais vous avez vu ses épaules, là, ce mec-là. Donc, déjà, le bas, c'est oui, c'est un loser qui va devenir un super-héros. Ça ne marche pas.
C'est pas un loser, c'est un mec.
Ah, ils essayent de nous faire dire ça.
Qui est dans une mauvaise passe. Ça n'a rien à voir.
Bah, il a tout perdu, quand même.
Oui, mais il a tout perdu. Mais alors, c'est sa faute. Et de manière complètement nulle, hein, il faut le dire, parce que je suis désolée, moi, je suis quand même du côté de Tom Hardy. Enfin, la nana est une connasse sans nom, quand même. Elle est fiancée à lui.
Elle part un peu vite.
Et elle part en une seconde, mais
attends,
quoi.
Non, mais à cause de lui, elle vient de se faire virer son job. Il a trahi sa confiance.
Elle est fiancée.
Putain, moi, je suis du côté de la meuf.
Mais elle est fiancée à lui. Je veux dire, c'est quand même pas.
Ouais, attends, quand t'es fiancée à quelqu'un et ton mec fouille dans ton ordinateur pour.
Non, il a pas fouillé. Attends, il a pas fouillé.
Plaisante.
Il a pas fouillé.
Oh, ok.
Enfin, il ouvre son ordinateur, il tape son mot de passe, il devine son mot de passe.
Il regarde par-dessus son épaule si elle va pas arriver.
Oui, il regarde avec un mail où il y a écrit confidentiel en géant, enfin qu'elle a laissé traîner comme une connasse.
Non, mais c'est pas vrai.
Il fouille.
Je suis d'accord.
Moi, je trouve qu'il fouille. Très légèrement, mais non, je pense. Non, mais il fouille, il met son mot de passe et tout quoi.
Mais oui, il met son mot de passe.
Qui connaît, donc elle lui a donné. Donc voilà, bref.
Ah oui, c'est vrai qu'il connaît son mot de
passe. Il connaît son mot de passe, il cherche pas son mot de passe. Bref,
ah oui,
moi je pense quand même que rien que cette scène du début là, j'aurais préféré voir ce couple qui est justement jusque-là très heureux à partir de ce moment-là. C'est pour ça que je trouve qu'elle part d'un coup sans dire au revoir. Elle a même pas l'air de souffrir. Enfin, elle se marie avec lui quand même, mais bon, bref. Si on commençait par le voir où la demande en mariage, par exemple, il la demande en mariage et elle, on la voit hésiter parce que il dit ouais, tu mets toujours ton boulot devant moi, devant nous, t'as tes principes de justice, etc., qui prennent trop de place, je suis pas sûre, ton envie de vérité, etc., te prend trop de temps, je suis pas sûre que je pourrais vivre avec ça. Qui lui dit non mais t'inquiète pas, je vais changer, etc. Et que il sait qu'elle travaille sur ce document-là et que là, il fouille vraiment dans son ordinateur. C'est-à-dire qu'il va en douce. C'est pas juste coïncidence, je vais boire de l'eau et il y a son ordi, il y a un mail confidentiel, tiens, je vais trouver son mot de passe.
C'est pas de l'eau qui boit.
Il boit je sais pas quoi. Hein,
du lait, comme tous les Américains.
C'est ça. Et non, et qui fouille vraiment et du coup, qui trahit cette confiance-là. Et en plus, s'ils avaient fait ça, on aurait pu implanter que vraiment son envie de faire le bien et la justice est tellement fort que ça aurait peut-être pu être une raison pour laquelle il se bat contre Venom quand il est dans sa tête et dire qu'il arrive entre guillemets à convertir Venom à ses principes si forts de le bien, la justice, la vérité, et en le montant mieux d'avoir un Venom qui commence à être lui aussi contaminé entre guillemets par ce virus là.
Oui, mais attends, on va quand même parler, parce que pour moi, pourquoi c'est un film épouvantable ? Parce que j'aurais pu passer sur le fait que les incohérences, le pourquoi est-ce que le méchant est débile, mais je me dis, au moins, c'est un film d'action, donc je vais voir des bonnes scènes d'action. Les scènes d'action sont nulles. C'est-à-dire, la première scène d'action où il se barre en moto, il est poursuivi par des drones qui explosent. Excusez-moi l'intérêt, tu veux récupérer le symbiote vivant, pourquoi est-ce que tu jettes des drones kamikazes sur la gueule ? Tu vas prendre un risque qu'il meure. Et la bataille finale, excusez-moi, c'est la bataille où il se bat contre donc
Riot
et donc l'autre, comment il s'appelle ?
Carlton Drake,
qu'on a vu la semaine dernière d'ailleurs dans Les Frères Sisters, hein, qui avait un rôle mieux. La bataille finale, donc c'est un monstre noir face à un monstre gris foncé. Ils se battent la nuit, et où ça ? Sur une passerelle de pour amener une fusée. Même pas à côté de la fusée, ça aurait été... Non, sur une passerelle. Je dis, mais pourquoi on ne voit rien ? Et c'est la première fois, et ça, je me rends compte que je vieillis, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait à l'écran. Je ne comprenais pas. Et à un moment, ils ont voulu faire un effet très stylisé où ils se battent et chacun sort un peu de leur corps de symbiote, et on voit les deux corps se tourner au ralenti à la Matrix en tournant. On ne comprend rien, ne voit rien. Donc même les scènes d'action sont ratées dans ce film. Fiona ?
Je suis pas aussi dure sur les scènes d'action parce que c'est peut-être la seule chose que je sauverais dans ce film de merde.
Quelle scène tu sauverais ?
Non, mais voilà, au moins il y a des images, c'est sympa, les images sont jolies, tu vois, quand même.
C'est noir sur noir, on voit rien.
Oui, bah c'est joli le noir. Il n'y a plus d'espoir.
C'est vraiment ça.
Mais,
ouais.
Non, mais un autre problème aussi très très fort qui m'a beaucoup fait rire. À un moment, donc Venom et Brock sont dans la bagnole de l'ex fiancée de Brock et Venom dit à Eddie comment l'exterminer, quoi. Il lui dit, au fait,
mon espèce ne supporte pas les
ondes de tant de mégawatts.
Et le feu.
Et donc, Eddie répète à sa copine, et le feu. On lui dit deux fois.
Non, mais d'autant qu'on l'avait vu dans une scène juste avant, où t'as les scientifiques qui sont là, puis regardez, il y a lui, il y a l'autre, ah, il est probablement accroché. Ouais, sauf si on fait ça, regardez. Puis il appuie sur un bouton, qu'on voit des ondes, le mec il meurt, ah, regardez, c'est rigolo, je vais torturer le seul mec qui est un peu compatible. Mais arrêtez de faire ça! Vous êtes complètement con, pourquoi vous le faites ? C'est votre seul hôte compatible, vous êtes en train de le faire souffrir, vous prenez un risque qu'il s'en aille.
Non mais l'extraterrestre qui donne ses failles, qui donne comment le tuer, juste pour qu'on comprenne à la fin comment Riot meurt avec le feu. Par contre, on nous dit pas comment Venom a survécu, hein, parce que la fin il a survécu. On le sait pas, il était aussi dans le feu, mais bon, on va dire qu'il était pas aussi touché, n'importe quoi.
Par le pouvoir de la justice.
Exactement.
Par le pouvoir du scénario. Oui, Marie ?
Oui, mais en parlant de porteurs compatibles, c'est vrai qu'il y a pas mal d'incohérences dans ce film. Et alors, pendant les trois quarts du film, le scientifique Carlton Drake cherche des humains compatibles et ils meurent tous les uns après les autres, c'est terrible. Et finalement, en l'espace de très peu de temps, il se rend compte que lui, déjà, il est compatible. Et puis que la femme de Eddie Brock, elle est compatible. Enfin bon, finalement, c'était pas si difficile de trouver des humains pour porter les aliens. Moi, je trouve que, pareil, c'est quand même
alors
un peu...
Attends. Non, alors ça par contre, je suis pas totalement d'accord avec toi, parce qu'à un moment, il montre une scène, excuse-moi, c'est écrit ce film, il montre une scène où tu vois plein de d'autres, qu'on voit, il y en a qui a tenu 7 semaines, il y en a qui a tenu 11 semaines, donc tu peux dire que même si t'es pas compatible tout de suite, tu peux tenir quelques jours. Et là, on en revient justement à le méchant Riot, parce qu'au début, le vaisseau spatial s'écrase en Malaisie, ils perdent un des symbiotes, qu'ils ne recherchent jamais. Bien, aucun moment, ils se disent, tiens, c'est bien, on l'appelle un symbiote, et le symbiote, ce qu'on voit, c'est que, donc, c'est quand même censé être des créatures hyper intelligentes. Elle arrive dans une ambulance, au lieu de prendre l'ambulance, tirer plus vite. Non, elle préfère tuer tout le monde et marcher à pied dans le corps d'une petite chinoise. Je dis, mais pourquoi faire ça ?
Parce que garde ça fait plus film d'horreur.
Et c'est quand même une intelligence qui vient de l'espace, qui est quand même extrêmement développée. Elle met 6 mois pour faire Malaisie San Francisco. Non, ça a choqué personne.
Bah parce qu'elle change de corps souvent. Ouais, non, c'est ça.
Oui, quel intérêt de prendre le corps
si elle prend pas l'ambulance, ça veut dire qu'elle le fait à pied.
C'est un bon temps.
Mais non, parce qu'on voit quand Eddie Brock a le corps de Venom, Venom peut entièrement prendre le corps et courir à des vitesses de dingue. Pourquoi est-ce qu'elle prend le corps de cette petite chinoise pour marcher à 2 à l'heure ?
Mais de toute manière, tout ce film n'est que petite incohérence sur petite incohérence sur grosse incohérence. Il y a le fait que dans le labo super sophistiqué de Carlton Drake, il n'y a pas de caméra, donc quelqu'un y est entré.
Il faut le raconter, ça.
On ne sait pas qui.
Parce que c'est ça, il y a une des traîtres, celle qui contacte Eddie Brock, qu'il faut absolument venir. Ils arrivent dans le labo, où le mec, c'est Elon Musk, c'est une espèce de caricature. Donc c'est vraiment le mec au sommet de la technologie, il bosse sur des larves extraterrestres, comme dirait Marie. Il ne met aucune caméra dans son entrepôt. Tout le monde peut rentrer n'importe quand, choper tout et se barrer, mais ce n'est pas possible.
Et donc on a effectivement une de ces scientifiques qui dit qu'il va trop loin et il tue des gens avec ses expériences, donc fait entrer Eddie Brock dans le labo. comment, ben baisse-toi dans la voiture et je dis bonjour.
Les gardes vont pas te voir.
Et je dis bonjour aux gardes en montrant mon badge, juste en le montrant, même pas en le poinçonnant quelque part. Et après ils disent trouvez-moi qui est entré. Et il faut que ce soit un des vigiles qui l'a croisé sur la route dise oui moi je l'ai vu en gros. Mais vraiment, vous ne savez pas qui entre dans votre bâtiment et qui en sort, vous avez besoin du vigile pour la voir. C'est n'importe quoi. Il y a oui aussi quand il veut savoir qui elle a fait entrer parce qu'il ne sait pas puisque ben oui il y a pas de caméra. Il veut des confessions, donc il la met dans la pièce où il y a une des larves aliens, là. Il lui dit, non, mais dis-moi, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout ça. Elle lui dit qui c'est, il fait merci. Il sort et il sort de la pièce, il l'enferme et il lâche la larve extraterrestre. À quel point cette meuf est conne ? Elle est censée être une chercheuse hyper scientifique, hyper intelligente, et elle se laisse questionner dans la pièce où il y a ce qu'elle voit qui tue les gens partout, sans problème. Il faudrait plutôt qu'il l'enferme de force dans une salle comme ça, mais vraiment avec violence, qu'il lui dise « Dis-nous qui tu as fait entrer, où on lâche la bestiole. » Du coup, elle le dirait, et comme c'est un gros méchant, ah ah ah, il le lancerait quand même. Mais là, c'est
les personnages sont profondément bêtes.
Non, mais je te dis, il n'y a même pas un effort de ça. Ça prend pas quand même beaucoup de temps à réfléchir pour juste faire ça. Ça prend une seconde. Les mecs vont arrêter d'essayer.
Figure-toi que j'ai appris qu'il y a 40 minutes du film qui ont été supprimées. Oui, Marie.
Alors, moi, je suis un petit peu moins dure que vous envers ce film.
Ah, les bons côtés, ça y est, c'est parti.
Oui, et ben justement, je trouvais que il y a par exemple le personnage du méchant Carlton Drake qui est pas si mal parce que en fait. C'est un méchant, il fait des choses atroces, il sacrifie des humains à tour de bras, mais c'est un humaniste. Pourquoi il sacrifie des gens ? Parce qu'il veut sauver l'humanité et leur permettre d'aller dans l'espace. Donc je trouve que ça donne un personnage méchant, mais avec des convictions. Pour une fois, c'est un peu travaillé. Et par exemple, quand Eddie fait son portrait au tout début du film, il explique quand même que oui, à 24 ans, il a trouvé une solution pour guérir les cancers. Enfin, c'est un mec qui profondément.
C'est un mec qui s'est perdu, quoi.
C'est un mec qui s'est perdu.
C'est Bradley Cooper dans Star Is Born, quoi. À la base, il se sentait bien, puis il est tombé dans l'alcool et la drogue.
Et puis l'intrigue est quand même assez efficace. Enfin, mine de rien, on va vite, on nous présente bien les choses rapidement. C'est drôle, c'est enlevé, tout ce qui est. Bah, il y a des moments drôles, il y a des moments d'émotion.
Deux, trois moments drôles.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi des moments d'émotion entre Eddie et son ex-fiancé, parce qu'il l'a perdu à cause de lui, parce qu'il a été trop bête, il regrette. Enfin, j'ai trouvé que c'était plutôt bien traité, cette histoire d'amour.
Alors, un point positif, je trouve, c'est la relation plutôt avec son nouveau mec.
Il est sympa, lui.
C'est qu'il est plutôt sympa.
Le nouveau mec de son ex-fiancé.
Il meurt pas. Non, mais voilà, on voit quand même que c'est l'ex, mais... Quand il voit qu'il est malade, il l'aide. Enfin, c'est pas le côté trop bas du front qui dit c'est ton ex, je le déteste. Ils ont des rapports cordiaux et c'est rare dans les films. Voilà. Mais c'est à peu près tout.
Sinon, un dernier point aussi, je suis désolé, je vais revenir dans le négatif. Alors c'est sûrement parce que le film était interdit au moins de 12 ans et pas plus, mais il y a zéro goutte de sang. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il mange la tête de certaines personnes, tu ne vois rien. La dernière scène, où encore un pay-in pay-off, heureusement que tu expliques ça tout à l'heure, où un moment Eddie Brock voit un épicier chinois qui se fait racketter par le gang à côté, puis à la fin, en Venom, il lui mange la tête.
Il mange la tête.
Ah oui. Quand la caméra recule, je dis on va voir le corps du mec par terre. Non, rien. Il y a zéro.
Oui, c'est vrai. Et surtout, l'épicière chinoise. Bonne soirée, ça va. Elle n'est pas choquée par un mec qui vient de se faire bouffer la tête devant elle. Par un monstre géant.
Ça fait 22$. En même temps, cela dit, ils vivent normalement dans le monde des Avengers parce que c'est le monde Marvel, donc ça ils en parlent pas du tout.
Non, c'est pas les mondes. Pour moi c'est séparé parce que d'ailleurs dans le film il y a pas écrit un film Marvel, c'est écrit un film en association avec Marvel, donc pour moi il le sépare du MCU vraiment.
Bon, c'est des détails. Un dernier mot, Marie.
Oui, je reviens sur cette scène finale où finalement Venom survit et il reste dans Eddie, et en fait Eddie est très content de le retrouver, mais il lui dit bon, on va devoir quand même établir quelques règles, il faut que t'arrêtes de bouffer des gens tout le temps comme ça, et ce serait bien. Il faut que je te dise en fait, il faut respecter la vie des humains, mais pas de tous. J'en conscient. Enfin, je suis d'accord avec toi. Cela, tu pourras les bouffer. Et je trouve que cette morale est assez terrible parce que il fait tout un discours moralisateur sur il faut respecter la vie des humains. Mais je te dirai lesquels bouffer quand même.
C'est la peine de mort.
C'est exactement ça. C'est comme Bruce Willis dans Death Wish.
Ah, mais c'est terrible, quoi. Genre les méchants, bon bah eux.
Mais non, mais il n'y a pas de justice. Ils sont pour la justice. Enfin, tuons tout le monde si on décide. Non, tuons les voleurs de bagages. Bon, ça c'était dans Death Wish, mais.
Mais je pense
c'est ceux qui mettent la musique trop fort.
Exactement. Allez, on
arrête. Ah, il le tue pas lui quand même. Juste. Ah ouf.
Non, il le tue pas, non. Tour final sur ce film, Marie.
Oh bah moi je le recommande quand même un peu. Enfin, c'est-à-dire que bon, si vous avez envie d'un film d'action, non. Avoir un petit peu peur et frissonner parce que des fois ça fait un peu peur, et ben vous pouvez.
Très bien, on m'a pas vu mais j'ai levé les yeux au ciel. Fiona.
Oui, ça fait pas très peur. Non, ça aurait pu être. Franchement, ça aurait pu être cool. Il y avait quelque chose de vraiment cool à faire, donc je suis très déçue et vraiment énervée parce que là c'est du foutage de gueule, mais c'est même plus caché quoi.
Ce film est une catastrophe. J'ai longtemps hésité pour savoir qui était le pire cette semaine, c'est le Star Is Born ou ça. Et j'ai toujours pas décidé.
Non, je pense quand même que c'est le Star Is Born, personnellement.
Ah, je sais pas. Parce que Venom, j'en attendais quelque chose. Ouais. Moi qui aimais le film Marvel. Et alors, je sais que Fiona l'a pas vu parce que dès que le générique est apparu, elle a fui de la salle. Mais c'est Marie, vrai. Est-ce que tu as vu ? Il y a une scène post-générique dans ce film.
Non, je l'ai pas vu.
Et donc, je vais vous la raconter parce que Eddie Brock va en prison pour interviewer quelqu'un qui est joué par Woody Harrelson et qui a la perruque rousse la plus incroyable que j'ai vue. On dirait Kyle dans South Park quand il enlève son bonnet. Genre. Et en gros, le mec dit un jour, quand je vais sortir de ces barreaux, parce qu'un jour je sortirai, ça va être un carnage. Référence à l'adversaire de Venom qui est en Venom rouge et qui massacre tout le monde. Et j'ai appris ensuite que Tom Hardy a signé pour 3 films. Donc rendez-vous pour numéro 2 où l'adversaire sera carnage, ça promet. On arrête là pour aujourd'hui et on finit par les recommandations, les dérecommandations. Claire.
Alors, je vais recommander une série de la BBC qui s'appelle Bodyguard. N'ayez pas peur, c'est pas un remake du film avec Whitney Houston.
C'était bien, Bodyguard.
C'est une super série sur un soldat qui revient d'Afghanistan et qui a un syndrome post-traumatique et qui doit s'occuper de la sécurité d'une femme politique plutôt très à droite et très sécuritaire qui a envoyé des soldats sur le front. Et voilà, c'est très vraiment.
Ça où
pour le moment, ça arrive sur Netflix bientôt, okay. Il me semble.
D'accord.
Pour le moment, c'est juste en VO, mais je crois que ça arrive bientôt sur Netflix.
Mais t'es totalement bilingue, donc. Marie.
Eh bien, moi, je vais vous recommander une série d'animation qui s'appelle Marble Jane. C'est 26 épisodes de 26 minutes chacun, et la première diffusion sera dimanche 4 novembre sur TFou.
Oui.
Ok. Voilà. Marine.
Oui, moi je vis dans le passé, donc j'ai une référence série anime Avatar, le dernier maître de l'air qui est sur Netflix.
C'est sur Netflix.
Absolument génial, donc oui, il y a des 3 saisons sur Netflix, c'est trop bien, voilà.
Ah, ça c'est cool, ça c'est la bonne nouvelle. Fiona.
Moi je vais vous recommander un seul en scène de Marc Fraise, ça s'appelle Monsieur Fraise, pardon. C'est presque du clown. C'est très particulier. Alors, on a été un peu découvert sur On ne demande qu'à en rire à l'époque. Si vous ne le connaissez pas et que vous voulez voir quand même quelque chose d'assez hors du commun, on va dire, au sens propre, hein, hors de différents
inhabituels.
Voilà, inhabituel. Allez-y, sans regarder ce qu'il fait sur Internet pour avoir la surprise vraiment, parce que c'est un personnage. C'est un personnage, donc il faut le découvrir sans l'avoir vu. Et c'est très intelligent et il arrive à rythmer alors qu'il a un personnage pas facile à tenir tout du long, et donc il faut le voir, c'est à l'européen.
Ok, bah moi je vais vous recommander un jeu vidéo qui s'appelle Spider-Man, hein, Venom prend ça. Il est sorti au début du mois de septembre, il est vraiment, vraiment très très bon, parce que quand dans un open world, parce que c'est un open world, on prend plaisir à se déplacer, et ben déjà le jeu réussit. Et là c'est un bonheur de se balancer de toit en toit, on vit enfin en jeu vidéo ce qu'on voyait dans le premier Spider-Man qui est sorti en 2002. Enfin, ça fait un bien fou, les bagarres sont plutôt pas mal, même s'ils sont un peu répétitives. Les objectifs secondaires sont à la fois variés et ils arrivent à se renouveler. C'est vraiment, vraiment un excellent jeu. On s'arrête là pour cette semaine et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Sequel Pitch. À bientôt!